La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, en cette veille de semaine sainte, regardons ce que nous dit le vieux Maritain dans Approche sans entrave, publié en 1973. Au sommet de l'âme, il y a une fenêtre vers le ciel. C'est comme s'il y avait au sommet de l'âme une fenêtre vers le ciel. Fenêtre dont il dépend de la liberté de l'âme d'ouvrir ou de fermer les vitres et les volets. Tant que les volets sont fermés, la lumière n'entre pas. Que par un acte libre de recours à Dieu, l'âme ouvre la fenêtre et ses volets, la lumière se précipite, et avec elle, une avalanche des dons du ciel qui faisait pression pour pouvoir entrer. Paraphrase de l'Évangile, « Frappez et l'on vous ouvrira ». Certes, mais au soir de sa vie, Maritain tisse une tapisserie dont le fil d'Ariane est bien celui de Dieu. De Dieu, mais lequel ? Eh bien, le Dieu de l'incarnation. Et je vous propose de revenir sur la loi de l'incarnation dans l'univers chrétien à partir d'un texte de 1935, extrait de « Science et sagesse ». La grâce est chose cachée. Le mouvement d'ascension de la créature vers Dieu, son effort, absolument requis d'ailleurs indispensable pour parvenir à la perfection spirituelle, masque à nos yeux le mouvement de descente et de don de l'amour incréé dans la créature. Alors une discordance s'établira et s'aggravera entre la réalité de la vie chrétienne et la façon dont on en prend conscience et dont on entend la vivre. La religion deviendra, comme on dit, de moins en moins existentielle. Les apparences l'emporteront, on vivra d'apparence. Le mot « existentiel » sous la plume de Maritain en 1935 nous permet de mesurer combien Maritain, par saint Thomas d'Aquin, peut entrer en dialogue avec l'existentialisme. Pour rappel, Sartre publiera en 1947 « L'existentialisme est un humanisme » et Maritain lui répondra par le court traité de l'existence et de l'existant, mais sans entrer dans un dialogue de face à face, mais au contraire en allant plus profond pour retrouver comment le thomisme ou la philosophie réaliste peut progresser uniquement par approfondissement. En cette veille de Pâques, revenir à l'existentialisme thomiste, c'est-à-dire revenir à la loi de l'incarnation sans laquelle il n'y a pas la résurrection, peut nous permettre une approche philosophique qui débouchera après Pâques sur tout le plan éthique de Jacques Maritain que nous n'avons pas encore abordé. Maritain écrit en 1948, pratiquement juste après la publication de le court traité de l'existence et de l'existant, un christianisme décoratif ne suffit plus désormais. Un christianisme vivant est nécessaire au monde. La foi doit être une foi réelle, pratique, existentielle. Croire en Dieu doit signifier vivre de telle manière qu'on ne pourrait pas vivre ainsi si Dieu n'existait pas. Réponse de la créature au Créateur. Si on peut dire que la philosophie réaliste est un existentialisme, c'est bien à partir de l'Exode chapitre 3, c'est-à-dire du buisson ardent, dans lequel Yahvé apparaît à Moïse en lui disant « Je suis celui qui sera », puisque l'inaccompli hébreu est à traduire de préférence par un futur en langue française. Comment répondre à cet existentialisme de Dieu qui existe, dont l'être est d'exister ? Par un existentialisme chrétien, c'est-à-dire par un christianisme qui ne soit pas formel ou décoratif. Une première réponse est donnée par Maritain, il s'agit des moyens pauvres. Il faut absolument privilégier ce message évangélique de la crèche à la croix, c'est-à-dire la pauvreté. Il développe cette idée tout au long de son œuvre, mais en particulier dans « Religion et culture » en 1930. Plus on s'approche du pur spirituel, plus les moyens temporels employés à son service s'amenuisent d'eux-mêmes. et c'est la condition de leur efficacité. Trop ténus pour être arrêtés par un obstacle, ils atteignent là où n'atteignent pas les plus puissants équipements. À cause de leur pureté, ils traversent le monde d'un extrême à l'autre. N'étant pas ordonnés à réussir tangiblement, ne comportant pas dans leur essence une exigence interne de succès temporel, ils participent, pour les effets spirituels à atteindre, à l'efficacité de l'esprit. Quand Rembrandt peignait, quand Mozart, quand Satie ont composé leurs œuvres, quand saint Thomas a écrit la Somme et Dante, la Divine Comédie, quand l'auteur de l'Imitation a écrit son livre, quand saint Paul a écrit ses épîtres, quand Platon et Aristote parlaient à leurs disciples, quand Homère chantait, quand David chantait, quand les prophètes prophétisaient, c'était là des moyens temporels pauvres. Ce qui fait du monde moderne un terrible tentateur, c'est qu'il propose, il vulgarise tellement les moyens temporels riches, lourds, écrasants. Il les emploie avec une telle ostentation et une telle puissance qu'il fait croire que ce sont là les moyens principaux. Ils sont principaux pour la matière, ils ne sont pas principaux pour l'esprit. Lorsque David eut décidé d'affronter Goliath, il essaya d'abord l'armure du roi Saül. Elle était trop lourde pour lui. Il préféra une arme pauvre. David, c'était l'esprit. Pauvre Saül, déplorable figure de la puissance temporelle, royalement équipé pour servir l'ordre divin et combattre le diable. Et quand David est devenu roi, il a péché à son tour. Mais lui, il s'est repenti. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira de nouveau seul sur la montagne. Moyens pauvres qui nous permettent de suivre Jésus dans sa prière et aussi dans sa passion que nous allons célébrer la semaine prochaine. Le moyen pauvre s'articule sur un deuxième moyen proposé par Jacques Maritain dans un chef-d'œuvre, La philosophie morale, publié en 1960, considéré comme une somme morale. Maritain passe en revue les grands philosophes de l'histoire, des présocratiques aux philosophes contemporains, autour de la question morale. Parce que pour lui, il y a toujours des vérités cachées. L'esprit est à l'œuvre, et si le christianisme arrive par la révélation à un accomplissement de la vérité, à une perfection, pourrait-on dire, de la vérité, les vérités cachées sont toujours à sonder, tel un sourcier, et à repérer pour les honorer. C'est une deuxième manière de vivre un existentialisme chrétien en rendant hommage aux vérités cachées. Voyons un peu ce que dit Jacques Maritain à propos de l'idéal moral du christianisme et voyons en quoi on peut dire qu'il vient parfaire, parachever des vérités cachées ou appréhendées par différents philosophes tout au long de l'histoire. Cet idéal moral du christianisme n'est pas facile. Et pour autant que l'on considérerait seulement les forces de la nature humaine et ses infirmités et sa propension au mal, il apparaîtrait comme encore plus impossible à réaliser que l'idéal stoïcien ou l'idéal épicurien. De fait, le christianisme n'a su relever les civilisations humaines qu'en y portant en même temps, par le oui ou le non qu'il exigeait des cœurs, le trouble et la division. Il n'a pas mis fin aux guerres. Il a activé l'histoire, il ne l'a pas subjuguée. Dieu même ne le fait pas. Il a évangélisé la terre, il ne l'a pas soumise. Non seulement l'effort adverse et les rébellions de la nature, mais le retour de nos misères sur le levain divin lui-même, quand les forces de l'homme ont entrepris de servir le Christ par leurs propres moyens, ont fait que le message chrétien a agrandi la souffrance dans notre espèce, en même temps qu'il portait tout réel progrès moral et tout réel agrandissement de bonté. Mais l'espérance évangélique a marqué pour toujours les profondeurs de l'humanité. La sainteté a transfiguré le cœur de l'homme, non seulement chez les saints, mais chez tous les pécheurs qu'un rayon d'elle atteint. Et en nous révélant que Dieu est amour et nous fait ses fils par sa grâce et que l'accomplissement final auquel va notre pauvre vie est de le posséder par la vision, le christianisme, sans céder pour cela à aucune illusion sur les possibilités de la nature et sans méconnaître non plus sa dignité, a réussi à assurer, ce qui est la grande affaire pour l'éthique, l'efficacité décisive de l'appel exercé sur l'âme humaine par la fin ultime qui lui est proposée. Écoutons donc comment Jean Alain répond à cette vision de progrès, d'accomplissement, à travers une œuvre magnifique, le Choral Dorien, interprété ici par Emmanuel Koulkasi. Troisième voie, le prochain, bien sûr. Maritain nous invite à réfléchir sur le prochain d'une manière philosophique, car nous restons toujours dans cette frontière, même en carême, autour de la philosophie et de la spiritualité de Jacques et de Raissa Maritain. On trouve une page exemplaire dans Les Principes d'une politique humaniste, publiée en 1944. Je lis dans l'Évangile l'histoire de cet homme qui s'en allait de Jérusalem à Jéricho, et que des voleurs ont laissé à demi-mort sur la route, et dans lequel un Samaritain, c'est-à-dire un étranger, avec lequel les Juifs ne frayaient point, et qui ne professait pas les mêmes croyances religieuses qu'eux, a reconnu son prochain, parce qu'il a eu pitié de lui, tandis qu'un docteur de la loi et un prêtre, passant leur chemin, le cœur fermé, se sont exclus par là même de la proximité des hommes. La mystérieuse parole du Christ à ce sujet signifie qu'il dépend de nous d'être le prochain de tout homme, si nous l'aimons et si nous avons pitié de lui. Ce n'est pas la communauté de race, de classe ou de nation, c'est l'amour de charité qui nous constitue ce que nous devons être, membres de la famille de Dieu, de la seule communauté où chaque personne, tirée de sa solitude radicale, communie vraiment avec les autres, et fait d'eux vraiment ses frères, parce qu'elle se donne à eux et meurt en quelque façon pour eux. Nulle parole ne signifie plus profondément le mystère et la dignité de la personne humaine. Qui est mon prochain? L'homme de mon sang? De mon parti? Celui qui me fait du bien? Non, c'est celui à qui je fais miséricorde, celui à l'égard duquel passe par moi l'universel don et amour du Dieu qui fait pleuvoir les eaux du ciel sur les bons et sur les méchants. Une quatrième proposition pour comprendre comment vivre un existentialisme chrétien, ce sont des vertus morales et théologales ou des vertus héritées aussi de la tradition antique. Vous avez remarqué le clin d'œil à l'Antiquité avec le Choral Dorien. Il s'agit de modes dorien, phrygien, mixolydien. Nous avons maintenant deux modes réduits qui sont le majeur et le mineur qui donnent des tonalités. Et ce petit clin d'œil donné par Jehan Allain montre qu'on hérite d'une tradition, d'une pensée et que les autres avant nous méritent d'être considérés. Donc la quatrième voie proposée par Jacques Maritain, elle est dans Frontières de la poésie et elle s'appelle pureté. Pureté. De ce mot lui-même, on a fait un usage impur. C'est devenu un mot équivoque, on l'a traîné partout, chez le marquis de Sade, à la Tchéka, etc. Un crime, un vice, un mensonge, une souillure, la méchanceté, le blasphème, tout cela est pur si c'est intact, si c'est bien fait, si nul repli de la raison ne le juge et n'interrompt son mouvement. Jean-Jacques Rousseau, toujours, l'homme qui médite est un animal dépravé. Le comble de l'impureté, dès lors, c'est la pudeur. Un prêtre sincère monterait nu à l'autel comme dans la messe noire. Vêtir en soi l'animalité d'humanité, l'essence de raison et sagesse, et l'humanité elle-même des mérites du Christ et de sa charité, couvrir ses mains de la grâce de Dieu pour toucher Dieu, comme Jacob approchant Isaac avec les mains d'Ésaü, c'est duplicité, hypocrisie. La sincérité exige qu'on ne soit que ce qu'on est dans le plus bas de son être, et la pureté veut qu'on le montre. Les surréalistes dialoguent sur l'amour. On le voit, notre société a des notions floues. Sincérité n'est pas vérité, pureté n'est pas à reprendre d'après la pureté sincère du moment où l'on parle. Ce n'est pas à concevoir selon un sentiment. Ainsi de la sincérité, toujours, dans Frontières de la poésie. Sincérité de la matière, de l'informe comme telle, et de la dispersion, comme si c'était mentir que de toucher à ses possibilités internes pour les conformer à sa loi la plus profonde et à son exemplaire éternel. Le Gréco ment dans ce cas-là, qui peint l'enterrement du comte d'Orgaz, ses couleurs sur sa palette, voilà sa sincérité. Cinquième voie, c'est la voie du reniement du Notre Père qui est aux cieux. Représentons-nous un processus historique au cours duquel des hommes, qui pendant quelques générations se croyaient encore chrétiens et qui, au début, avaient peut-être la foi théologale à un haut degré, mais qui commettaient la pire erreur théologique, est de faire rejeter le « qui est aux cieux ». Cela d'abord dans leur expérience intérieure, ensuite en le tenant explicitement dans leur systématisation pour un mythe. Il a pu, supposons-le aussi, y avoir parmi eux des hommes de génie. Mais ils étaient tous des imaginatifs dévoyés. Je veux dire qu'au lieu d'obéir aux exigences propres de l'intellect pour penser et former leurs concepts en s'aidant de l'imagination intelligentiée, ils usaient, pour penser et former leurs concepts, de l'imagination elle-même prise pour l'intelligence. D'où il suivait qu'étant des images masquées, leurs concepts étaient d'autant plus profonds qu'ils étaient plus obscurs, et se remuait avec plus d'énergie dans les ténèbres d'un langage furieusement hermétique et ultra-savant. Rendons hommage ici à Hegel, au maître des maîtres devant lequel l'esprit de l'homme moderne est à genoux. Tous ces gens ont en réalité tenu la raison pour leur ennemi et demandé à l'imagination de la chasser, ce qui a eu pour effet de corrompre la raison en l'enflant démesurément. Ça n'est donc bien fini pour eux du Père qui est aux cieux. Leur Dieu n'est plus au ciel. Ils nagent dans l'océan de l'immanence, où ces fidèles affrontent des monstres marins qui tantôt les terrifient, tantôt les enchantent. Et ce Dieu est désormais tout au bas des choses. C'est une sorte de matière première divine indéterminée, aussi vaste que le monde, et qui prend forme au-dedans de chacun de nous, avant tout dans la conscience des penseurs qui le vénèrent, et pour lequel la contradiction est le signe, non sans doute de la vérité, puisqu'il n'y croit plus, mais de la puissance et maîtrise de l'homme sur lui-même et sur les choses, en sorte que l'épouvante les saisit lorsqu'ils sentent cette puissance leur échapper et qu'une joie dionysiaque les exalte quand ils la sentent surgir. Eh bien, ce dieu d'en bas a un nom. Il est le Ungrund, et le Ungrund est le secret de vie et le mystère sacré de la philosophie allemande depuis 3 ou 4 siècles. Il est aussi l'objet d'une forme maléfique de la mystique naturelle qui alors dresse contre la mystique divine une porte solidement verrouillée. Notre Père qui es aux cieux. Comment un fils d'Israël, et en général comment un homme authentiquement religieux, pourrait-il s'étonner de cette formule employée par le Seigneur ? C'est en levant la tête, comme pour regarder les étoiles, qu'on se tourne vers Dieu et qu'on s'adresse à lui. Les cieux qui sont la demeure du Père n'ont pourtant rien à voir avec le ciel des astronomes. Ils ne sont pas le ciel empiré. Ce dont les cieux sont le signe que, métaphoriquement, ils proclament à notre esprit, c'est la transcendance infinie de Dieu. Que Dieu est infiniment transcendant, nous énonçons cela aussi tranquillement que nous énonçons que 2 et 2 font 4. Et pourtant, de tels mots sont de la dynamite, et beaucoup plus que de la dynamite. Ils sont écrasants et terrifiants. Dieu infiniment au-dessus de nous, infiniment éloigné de nous, dans ces cieux totalement inaccessibles aux plus élevés des êtres créés, considérés selon leur seule nature. Dieu, dans sa grandeur sans borne, sa toute-puissance, son infinie sainteté qui fait trembler, sa majesté devant laquelle nous ne sommes rien. Et de tels mots sont aussi d'une tendresse et d'une douceur ineffaçables, puisqu'il a voulu que par sa grâce, les sales vermisseaux que nous sommes le rejoignent, là où il est, et soient eux-mêmes déifiés par la vision de son essence, s'ils font sa volonté sur cette terre de misère, où leurs cadavres pourriront. Dernière voie proposée par Maritain, vous le devinez, c'est la croix, le mystère de la douleur. Et il écrit un texte splendide dans « De la grâce et de l'humanité de Jésus » en 1967. Dans sa réalité nue, la croix elle-même n'est pas douce, non. Ni les clous, ni la lance, ni la sueur de sang, ni le Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? La croix est dure, abominablement dure. En raison de notre faiblesse, cette dureté peut nous rester plus ou moins longtemps, plus ou moins dissimulée. Un jour arrive où il faut bien qu'elle apparaisse, et alors notre esprit est comme frappé d'égarement. Tous nos os ont été brisés, notre être saccagé, tout s'efface de ce que nous avions cru comprendre. Une main implacable a passé, qui nous a jetés vivants dans l'abîme de la mort. La voilà, la douce croix. Ce n'est rien de dire qu'elle nous met en face de l'intolérable. Il faut aller plus loin. Reconnaître que la croix, quand elle se montre toute nue telle qu'elle est, c'est l'inadmissible qu'elle nous impose. Est-il admissible que des milliers d'êtres faits à l'image de Dieu périssent misérablement dans les chambres à gaz et des wagons plombés écrasés comme de la vermine par d'autres êtres humains ? Est-il admissible qu'il y ait des hommes qui meurent de faim, des enfants qui soient livrés à la prostitution, des âmes immortelles et telle ou telle dont vous avez pu entrevoir la beauté qui courent en foule vers l'enfer ? Est-ce que Rachel peut admettre que ses fils lui soient pris par la mort, étant de mère, dans le pays de Bethléem dont Hérode a massacré les nouveau-nés ? Nous sommes trop futiles, cependant, pour savoir ce qu'est la douleur des autres. Mais maintenant, quand c'est nous-mêmes qui sommes atteints, alors les écailles nous tombent des yeux. Nous voyons tout à coup que l'inadmissible emplit le monde et que la mort, fût-ce d'un seul homme, parce que le principe immanent de sa vie est un immortel esprit, et que les larmes, fût-ce d'un seul innocent parce qu'il est innocent, sont en réalité des choses que la pensée se refuse à admettre. Elles ne sont pas seulement intolérables à la sensibilité, elles sont inadmissibles à l'esprit. Et puis, une vérité se fait jour en nous. Si la croix nous impose ainsi l'inadmissible, c'est parce que, d'abord, la liberté de l'homme a imposé à Dieu ce qui est inadmissible à Dieu, le péché, le mal de Dieu, et Dieu non pour se venger, mais pour faire miséricorde aux hommes et pour me racheter moi-même à envoyer son Fils parmi nous, pour lui faire souffrir en toute plénitude un certain jour où tous les temps sont rassemblés, ce qui est inadmissible à l'homme, l'inadmissible auquel depuis la chute il arrive un jour à chacun de se heurter au détour du chemin. Et ce que le Christ a souffert le vendredi saint, c'est un rayon, un des innombrables rayons de cela qui atteint maintenant notre chair et est imposé ou, pour parler plus vraiment, proposé à notre cœur. »